Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Conso et Retail. On est ravis de vous retrouver au sommaire. Le luxe peut-il être accessible à tous? Alain Aymar, président de la marque iconique de joaillerie, Mauboussin, sera avec nous pour en parler. L'analyse de cette semaine avec notre experte d'Altavia, Christine Garabedian. Le luxe accessible, un outil stratégique pour les grandes maisons. Focus sur les collaborations qui incarnent cette tendance. On parlera également de la place du digital dans les parcours d'achat. Et puis comme chaque semaine, retrouver l'actualité de la semaine avec Eva Jacquot. Et puis en deuxième partie, la start-up cette semaine, c'est Kimaï. On va parler de diamants de laboratoire avec sa cofondatrice Jessica Warsh. Mais tout d'abord, c'est l'heure de l'interview. Vous êtes sur BFM Business, soyez bienvenus.
Focus Retail, l'interview.
Avec nous sur ce plateau, Alain Aymarc. Bonjour, vous êtes président de Mauboussin, marque iconique de joaillerie. À mes côtés également, Christine Garabedian. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice commerciale Altavia Disco. Alors Alain Aymarc, l'histoire de Mauboussin, elle remonte à 1922. Au début du XXe siècle, ces bijoux s'adressaient à une clientèle fortunée. Et quelques décennies plus tard, la maison a opéré un virage vers le luxe accessible. Vous avez repositionné la marque à votre arrivée donc en 2022. En 2002, est-ce qu'en faisant le choix d'être plus abordable, est-ce qu'il n'y a pas moins de désirabilité de la marque?
Je pense que la désirabilité, ce n'est pas une fonction du prix. Mm-hmm. C'est une fonction de la création. Soit les créations d'un joaillier sont capables d'émouvoir, alors si en plus elles sont accessibles, c'est encore mieux. Mais autrement, c'est en fait le même métier, d'autant plus qu'on continue à faire des pièces exceptionnelles. Qu'on vend à des clients qui sont des clients particuliers, qui constituent la clientèle, j'allais dire, presque d'origine de la maison.
Mais l'expression même, luxe accessible, est-ce que ce n'est pas un oxymore né du besoin d'élargir l'audience, la clientèle?
Oui, en fait, tout dépend de la définition qu'on apporte au luxe. Le luxe, pour moi, c'est la réalisation de ses rêves, souvent d'ailleurs de ses rêves d'enfant. Et au fond, il ne peut pas y avoir de ligne de démarcation entre les rêves des riches et les rêves des pauvres. Il y a les rêves des gens qui ont du goût et qui choisissent donc d'aller plutôt vers une maison de création que vers une autre.
Il y a vos stratégies de communication aussi qui est grand public. Vous avez un affichage dans le métro, vous êtes aussi partenaire de Miss France. C'est un événement populaire, donc ça fait 3 ans que vous êtes partenaire. Est-ce qu'on peut être à la fois accessible au plus grand nombre et à la fois garder cet ADN luxe?
Mais la question de l'accessibilité, elle est diverse d'ailleurs. Parce qu'en fait, quand on entend le terme d'accessibilité, il ne faut pas simplement voir l'accessibilité économique. Il faut voir d'abord qu'il faut une accessibilité en matière de création. On a un langage créatif, il est accessible en fait aux clientes, aux clients, ou il ne l'est pas. Donc on est d'abord accessible par sa création, on est ensuite accessible par le prix, puis ensuite on est accessible aussi géographiquement, c'est-à-dire qu'on offre les objets à proximité des gens pour qu'ils puissent en fait profiter de la création, la voir, la respirer quelque part, et l'évolution de Mauboussin, c'est d'être passé d'un magasin Place Vendôme en 2002 à 96 magasins aujourd'hui sur le territoire français. Ça, c'est une vraie définition de l'accessibilité.
Christine? Oui, alors effectivement, une question autour de finalement la notion de rêve, elle est tout à fait entendable. Et la question qu'on a comme envie de se poser, d'un point de vue un peu plus économique peut-être aussi, c'est quel est pour vous le principal enjeu du secteur, justement, du segment luxe accessible pour l'avenir? Quel est pour vous vraiment le pari pour demain?
Ça n'est sûrement pas le gigantisme. C'est-à-dire que...
Le gigantisme?
C'est de vouloir croître à tout prix. On a choisi de ne pas aller sur un certain nombre de marchés mondiaux qui sont très porteurs. Hein, la Chine, on n'y est pas. Les États-Unis, on n'y est pas. Le Moyen-Orient, on n'y est pas.
Vous allez ouvrir à Abu Dhabi quand même.
On va ouvrir à Abu Dhabi seulement cette année. C'est-à-dire qu'on aura mis quand même du temps à décider. Et pour plein de raisons, hein, qui sont aussi le fait que quand on est une petite maison, pour ouvrir, il faut avoir des capacités de production qui permettent de faire face, en réalité, à un accroissement probable de ces volumes. Et moi, aujourd'hui, je sais probablement fabriquer 20% de plus de ce que je fais. Mais au-delà de ces 20% de plus, je n'ai pas du tout l'outil de production permettant de différentes phases. Donc je préfère, au fond, me concentrer sur les marchés sur lesquels je suis, en face de clients et de clientes que je connais, en représentant pour elles probablement une solution du rêve. Parce que c'est ça ce qui est important. Je crois que le luxe accessible, c'est de dire aux gens, votre rêve, vous pouvez le réaliser chez nous. Si vous voulez... Quand on prend des objets assez simples, une alliance en platine, par exemple, une alliance en platine, vous allez probablement la voir proposée par Mauboussin, je ne vais pas exagérer, mais entre 18 et 23% moins cher que ce que vous pouvez avoir parmi les grandes maisons qui font des alliances en platine. Ça n'est qu'une question de marge, c'est exactement le même objet. Hein.
C'est quoi la fourchette de prix? C'est entre 800 et 1200 euros, c'est ça?
Oui. Et en fait, si vous voulez, ce choix, alors qui était un choix de marge, hein, qui avait été accepté par le précédent actionnaire, puisque c'est lui qui m'a embauché, c'est lui qui a accepté la stratégie d'ouverture, c'est un choix. C'est-à-dire que je décide de marger à X au lieu de marger 20% plus cher, plus élevé, et ben, c'est un choix que je fais et j'espère derrière ça être une entreprise rentable, quoi que soit cette décision.
Vous avez parlé de la production. Il y a 4 ans, vous avez rapatrié 98% de votre production en Europe, 60 à 70% en France. Est-ce que vous êtes aujourd'hui confronté à des problèmes d'approvisionnement et une hausse du coût des matières premières?
C'est un bon sujet pour parler temps qui court, car d'une part, il y a une assez forte volonté des grands groupes d'acquérir les ateliers de production, donc un certain nombre d'ateliers de production indépendants avec lesquels on était susceptible de pouvoir travailler, sont aujourd'hui passés dans le giron de grands groupes de luxe. Ça veut dire que c'est plus possible de travailler avec eux, donc il faut se retourner vers d'autres ateliers. Aujourd'hui, on est à 100% en Europe. On est à peu près à 60% en France. Mais on est en Italie, on est en Espagne et on est au Portugal.
Vous aviez une question.
Oui, effectivement. Donc, vous allez ouvrir une boutique à Saint-Sébastien, en Espagne, me semble-t-il. Est-ce que donc vous êtes présent en Europe? Donc, c'est un choix. On le comprend, on l'entend. Et est-ce que du coup, pour vous, l'offre finalement du luxe accessible, elle s'exprime finalement par des collections, des créations transverses qui sont les mêmes dans tous ces marchés? Ou est-ce que justement vous travaillez peut-être à des affinités en fonction de la culture ou du marché?
Les mêmes sont dans tous les marchés.
D'accord.
Donc la même politique de prix, peu importe le pays.
Et c'est la même politique de prix? Non, pas peu importe le pays, parce qu'au Japon, je suis 35% plus cher.
D'accord.
Mais disons qu'en dehors de cas très précis comme le Japon, qui est quand même notre deuxième marché, on fait à peu près 15% de notre chiffre au Japon. En dehors du Japon, qui est vraiment un cas très particulier pour toutes les maisons, autrement, j'ai un prix international.
Et est-ce que cette volonté de proposer du luxe accessible a un impact sur l'emplacement du magasin?
Est-ce qu'il y a un impact sur l'emplacement du magasin? C'est la volonté de faire beaucoup de com. Parce que ça sert d'avoir une communication grand public si je suis sur des lieux de trafic importants. Donc effectivement, je choisis d'être plutôt sur des artères à fort trafic, compte tenu de la com que nous faisons.
Alors aujourd'hui, on voit une nouvelle tendance émerger. Tellement celle du luxe abordable, c'est aussi celle de l'expressive luxury, que vous connaissez peut-être cette notion. Donc la jeune génération qui achète aujourd'hui auprès des marques qui prennent des engagements sociétaux, mais aussi écologiques. Est-ce que vous définiriez la maison Mauboussin comme une maison progressiste?
Je ne sais pas si nous sommes une maison progressiste. Je pense qu'on a évidemment des valeurs, on a des valeurs que l'on défend, notamment des valeurs de générosité. Participe à un certain nombre d'opérations dans ce sens-là. Mais je considère que mon métier n'est pas de donner des leçons à la société. Mon métier est d'y vivre et d'essayer d'y vivre en harmonie. J'ai beaucoup de salariés femmes. Je suis confronté à la réalité de la vie au travers de ce qu'elles vivent au quotidien, des difficultés qu'elles rencontrent. C'est-à-dire que c'était plus au départ une volonté de féminiser la joaillerie qu'une volonté de la rendre plus accessible ou plus démocratique. C'était pas ça mon objectif et ça l'est toujours pas. Je crois qu'il faut se dire que le bijou répond à une volonté d'identité de la femme qui choisit un bijou comme une espèce de seconde peau, qui choisit un bijou comme un élément d'identité. Il faut qu'elle vive avec ce bijou. Et c'est pas un bijou forcément, c'est pas un bijou d'apparat. Ça peut être un bijou d'apparat. Mais au fond, là, avant, vous aviez les bijoux de jour. Quand vous allez en soirée, vous changez le bijou. Enfin, vous pouvez toujours le faire. Mais moi, j'essaye que les bijoux que nous proposons soient des bijoux que la femme ait plaisir à porter, quelles que soient les circonstances. Et les grandes causes sont très importantes, ces grandes causes. Mais les grandes causes, au fond, elles dépassent le cadre de l'entreprise. On est plutôt une entreprise qui embauche régulièrement. On est passé de 23 personnes en 2002-2003 à 350. C'est pas beaucoup, on est un nain. Mais un nain qui a grossi. Avant, on était un tout petit nain. Derrière ça, je crois qu'on a plutôt une politique de rémunération qui est probablement plutôt favorable. Les grandes causes m'interpellent, mais elles m'interpellent moi en tant que citoyen. L'entreprise est une chose, et moi je suis un citoyen, et en tant que citoyen, j'ai des partis pris, j'ai des opinions. L'entreprise joue son rôle, mais voilà.
Voilà, donc Mauboussin qui réalise un chiffre d'affaires annuel moyen de 89 millions d'euros en 2022. Merci beaucoup à Anne et Marc de nous avoir partagé votre vision du luxe accessible. On va tout de suite passer au journal du retail avec Eva Jacques.
Merci beaucoup.
Focus Retail, le journal du retail.
Et comme chaque semaine, le journal du retail avec Eva Jacquot. Bonjour.
Bonjour Naomi.
Alors c'est bientôt la fin du code barre sur les produits de grande consommation. Une disparition annoncée pour 2027. On a déjà une petite idée du successeur.
Oui, le QR code s'apprête à remplacer le code barre. Mais ils vont cohabiter encore pour les 4 prochaines années. Alors cette invention japonaise inspirée du jeu de Go apparaîtra sur les emballages de pâtes, de gâteaux ou encore sur les bouteilles d'eau. Ce QR code augmenté se composera de 13 chiffres d'identification du produit. Ils seront inscrits sous le carré comme ils l'étaient sous le code barre. Il mentionnera 2 infos de plus, le numéro du lot et sa date de péremption. Le client pourra connaître la composition du produit, son origine et son mode d'emploi ou encore sa notice si jamais il a besoin de monter un meuble.
L'enseigne Quick veut revenir en force dans l'Hexagone. La chaîne de fast-food a failli disparaître il y a quelques années.
Oui, arrivé dans les années 80 en France, Quick veut doubler le nombre de ses restaurants. En ligne avec les objectifs de son plan de relance, Quick souhaite se réimplanter dans un certain nombre de territoires. L'objectif, doubler de taille en 5 ans. Et pour ce faire, Quick va ouvrir une 20aine de restaurants supplémentaires cette année en France et créer 800 nouveaux emplois. Alors Quick, c'est 117 établissements en France, dont 90% de franchisés. L'an dernier, son chiffre d'affaires a progresser de 25%. Alors, du renouveau, oui, mais pas de panique, l'enseigne veut garder son ADN et son très prisé Burger Giant. Mais l'idée est bien sûr d'accélérer sur le côté innovation et sandwich haut de gamme, comme par exemple la gamme remarquable qui a été conçue par le chef Norbert Terrer et surtout misée sur la jeune génération.
Et autre actualité, c'est la fin pour Carrefour Flash, le concept lancé par Carrefour en novembre 2021. Sa promesse 10 secondes pour faire ses courses, 10 secondes pour payer n'a visiblement pas fait ses preuves.
Oui, en effet, enfin, Carrefour 10-10 était un test pour étudier la fiabilité du concept. Le magasin était muni, on le rappelle, de 60 caméras et de 1000 capteurs qui étaient intégrés dans les rayons et qui agissaient comme des balances. Alors, selon Elodie Pertuiseau, qui s'est confiée à Olivier Dauvert, cette expérimentation arrivait à sa fin dans cette première configuration. En tout cas, on le rappelle, 50 mètres carrés de surface avec une proposition de 1000 références. Le groupe Carrefour va tout de même même lancé un autre Carrefour Flash dans quelques semaines. Et ce nouveau magasin sera lui également situé dans le centre de Paris, mais sera plus grand, plus semblable à un magasin de proximité plus classique avec 3500 références et disposera d'un rayon de fruits et légumes. Pour info, Carrefour exploite désormais 25 magasins flash au Brésil et en Argentine.
Et le groupe de restauration Napa Caro, propriétaire de Buffalo Grill, va se séparer de plus d'une centaine de ses restaurants courte paille, 2 ans seulement après avoir racheté l'enseigne.
Oui, victime de la pandémie et de la flambée de l'inflation, des prix à cause de l'inflation, les restaurants courte paille s'apprêtent à être cédés. La fréquentation était en baisse de 25% l'an dernier par rapport à 2019. Alors placé en redressement judiciaire en 2020, puis racheté 17 millions d'euros par le groupe de restauration Napa Caro, courte paille, c'est 144 restaurants et 76 en franchise. Le groupe est donc à la recherche d'un repreneur. Napa Caro préfère lui se concentrer sur sa marque Buffalo Grill et a récemment axé sa stratégie sur le développement de nouveaux entrants, dont l'enseigne américaine de fast-food Popeye, et en créant également une nouvelle marque qui s'appelle Burn Meat Bun.
Et connu pour être le meilleur chicken free de Louisiane. Merci beaucoup Eva Jaco, on passe tout de suite au Focus.
Focus Retail, le Focus.
On retrouve notre experte Christine Garavidian, directrice commerciale chez Altavia Disco. Alors, le luxe accessible, c'est pas un concept marchand totalement nouveau.
Exactement. Effectivement, alors, dans les années 2000, déjà, H&M initiait effectivement le mouvement en s'adossant, par exemple, à Balmain ou à Karl Lagerfeld et proposait des articles griffés à des prix très accessibles qui s'écoulaient comme des petits pains en magasin et en ligne. Et en fait, il y avait un intérêt pour la marque mass market, si je puis dire, finalement, de monter en gamme le temps de la collection éphémère et puis pour la marque de mode, finalement, d'élargir son audience.
Et en quoi le luxe accessible, justement, c'est un segment porteur pour ces maisons de luxe?
Alors parce qu'en fait, ça en passe de devenir vraiment un levier stratégique pour les marques aujourd'hui. Ça permet finalement de repositionner au cœur leur ambition artistique et artisanale, qui sont les fondements d'une maison de mode, de remettre aussi finalement la question au centre sur la manière de faire et sur le storytelling au travers ses campagnes. On va voir un peu après comment. Et puis finalement aussi pour apparaître comme des acteurs plus ancrés dans la réalité, dans le monde d'aujourd'hui.
Et pour vous, Christine, quelles sont les collaborations qui incarnent le mieux cette tendance?
Alors, on peut dessiner 3 grandes tendances. La première, finalement, c'est que grâce au luxe, les marques, en fait, elles peuvent aujourd'hui s'amuser presque à revisiter les produits du vestiaire du quotidien. Par exemple, Nike et Jacquemus qui se sont associés, qui ont fait fureur il y a quelques mois, vous avez certainement vu la campagne, qui ont proposé une réinterprétation du sportswear féminin pour toutes les morphologies. Et d'ailleurs bientôt Nike ça va s'associer avec Tiffany pour en gros revisiter la Nike Air Force One, donc on attend de voir le lancement, stay tuned.
Et puis la collaboration Balenciaga et Lays.
Et oui, complètement. Alors du coup là c'est plus une posture presque anticonformiste, c'est-à-dire aujourd'hui dans un marché du luxe qui peut paraître encore un peu élitiste, un peu codifié, effectivement là le sujet ça a été finalement de déporter la marque de chips, de la passer du rayon finalement au podium. Et du coup
on précise à 1 800 $, hein, c'est pas le seulement
sac,
en aluminium.
Exactement, finalement, le sachet effectivement a été transformé en sac de luxe, effectivement, pour 1 800 $. Exactement.
Est-ce que l'accessibilité, elle se limite seulement au prix? Non, il y a d'autres.
Non, tout à fait. On peut le voir effectivement aujourd'hui, par exemple, avec des marques très engagées comme Stella McCartney, qui a collaboré avec Disney, pour proposer des collections unisexes courtes entre mode et fantasy. Et finalement, oui, le prix, c'est un sujet, mais pas que, puisqu'elle touche aussi finalement aux notions de représentativité et finalement au partage de certaines valeurs que nous avons tous.
Et la proximité donc avec cette audience, c'est aussi important.
Complètement, on le voit par exemple avec des influenceuses qui deviennent des vraies ambassadrices du luxe accessible comme Lena Situation, 4 millions de followers rien que sur Instagram, effectivement qui amènent une vraie proximité sur les réseaux sociaux et qui ensuite invitent les marques à développer le conversationnel également sur les réseaux sociaux.
Voilà, les maisons qui n'hésitent pas à faire appel à des influenceurs qui incarnent donc la proximité avec le grand public comme Lena Situation qui est courtisée par Dior. Oui. Merci beaucoup Christine, on passe tout de suite au pitch de la start-up.
Focus Retail, le pitch.
Des diamants de laboratoire. Et si c'était l'avenir de la joaillerie, c'est votre pari. Jessica Warch, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir ici aujourd'hui.
Vous êtes cofondatrice de la start-up Kimai, que vous avez créée en 2018. Vous avez grandi à Anvers au sein d'une famille qui travaille dans l'industrie traditionnelle du diamant. Est-ce que vos parents ne vous ont pas un peu regardé avec de grands yeux lorsque vous avez eu cette idée de diamant de synthèse?
Au tout début, en vrai, clairement, la plupart des gens dans l'industrie, c'est une toute petite industrie, tout le monde se connaît à Anvers, se posait la question pourquoi on se lançait vraiment dans le diamant de laboratoire. En fait, il faut savoir que nous, ayant grandi à Anvers, on a toujours été entouré de diamants et des bijoux, et on voit vraiment ces produits comme il y a vraiment le côté sentimental qui vient avec. Donc c'est quelque chose qu'on reçoit de nos grands-parents, il y a quelque chose qu'on achète pour une occasion spécifique, et en fait au fil des années on se sentait vraiment déconnecté de l'industrie, où au final il y avait un problème de transparence mais aussi un problème de communication avec les marques. Donc d'un point de vue transparence, même en connaissant les diamantaires directement, il n'y avait pas de moyen pour nous de savoir d'où venaient les pièces qu'on achetait, d'où venaient les diamants qu'on achetait. Et d'un point de vue marketing, vraiment, les marques aujourd'hui nous parlent de la même façon qu'ils parlaient à nos grands-parents. Donc, c'est une industrie très intimidante, très traditionnelle, où il n'y a jamais eu vraiment de changement ou de transparence au fil des années. Et du coup, c'est pour ça qu'on a lancé Kimai, vraiment pour apporter ce côté moderne et innovateur. Et aujourd'hui, les diamants de laboratoire sont vraiment notre meilleure solution au problème pour rapporter ce côté innovation, transparence et vraiment arrêter le côté négatif, social et environnemental.
Alors c'est assez dingue, hein. Pour ceux qui nous écoutent, quand on regarde les images, on voit absolument pas la différence. Est-ce qu'un bijoutier, lui, il peut voir la différence?
C'est impossible de voir la différence. Ces diamants sont chimiquement et physiquement identiques à des diamants de mine. Donc même un diamantaire ou un gémologue ne peut pas différencier l'un de l'autre. Et en fait, aujourd'hui, un diamant de laboratoire est créé dans un labo, évidemment. On reproduit l'environnement qui se passe sous terre. Et c'est-à-dire qu'un diamant est fait 100% de carbone. Et vraiment, en le mettant dans un environnement de haute pression et haute température, on arrive à créer des diamants chimiquement et physiquement identiques, mais du coup sans l'impact environnemental et social.
Comment on le fabrique alors? Avec l'énergie solaire, à combien de temps? Comment ça fonctionne concrètement?
En gros, ça prend entre 6 et 12 semaines. Et nous, on essaye vraiment de travailler avec des laboratoires qui utilisent de l'énergie renouvelable. Et donc, comme je disais, c'est souvent dans un environnement de haute pression et haute température. Et ça commence, le premier diamant de laboratoire a commencé avec un pépin de diamants de mine, on dirait. Et en fait, aujourd'hui, on arrive vraiment à faire pousser ces diamants à la base d'un pépin de diamants de laboratoire. Et du coup, au fil des semaines, on arrive vraiment à reproduire cet environnement. Et on le compare souvent à de l'eau dans un iceberg ou de l'eau dans un freezer. C'est un environnement différent, mais le résultat est le même.
Alors, vous avez ouvert un pop-up dans le 3e arrondissement de Paris. C'est important parce que je pense que la majorité des consommateurs, ils ont besoin de voir à quoi ça ressemble des diamants de synthèse, de constater à l'œil nu qu'il n'y a pas de différence. Quels sont aujourd'hui les freins que vous rencontrez?
Je pense déjà, nous, ça fait 4 ans qu'on existe et on a vraiment commencé sur le côté digital. Et du coup, au fil des années, il y a eu énormément d'éducation sur le sujet. Donc, il y a 4 ans, évidemment, notre but était vraiment d'éduquer les consommateurs. En plus de ça, évidemment, leur offrir des produits qui sont beaux, qui sont de qualité. Donc, on faisait vraiment énormément d'éducation sur les réseaux. La presse également, ça nous a aidés. Donc, on a vraiment pu, jusqu'à présent, vendre des pièces jusqu'à 20 000 euros sur Internet sans que les clients touchent ou voient les pièces.
Puisque vous a aidé aussi ces grandes personnalités qui portent votre marque, comme Meghan Markle ou encore Emma Watson, les personnalités qui s'y intéressent.
Complètement. Et je pense que c'est ça qui nous a lancé, parce qu'au tout début, on n'avait pas les moyens d'investir en marketing. Et encore une fois, vu que c'est une industrie qui est très nouvelle dans un monde très traditionnel, on avait vraiment besoin de ce push un peu pour donner de la crédibilité au marché. Et du coup, donc, comme je disais, nous, on est très proche de nos consommateurs. Donc, même si on n'a pas de présence physique, on fait des calls Zoom, on est sur Instagram, on envoie des vidéos. Enfin, on essaye vraiment de les mettre à l'aise avec le fait que, voilà, on vend des bijoux sur Internet à des prix quand même moyen de plus ou moins entre 1 000 et 5 000 euros, mais on va vraiment jusqu'à 20 000 euros également. Après, il y a le côté physique, parce qu'on a lancé les bagues de fiançailles il y a 2 ans, et du coup, pour le côté bagues de fiançailles, qui est un achat un peu plus traditionnel, les gens recherchent quand même ce côté personnel, où on peut rencontrer, voir les pièces en vrai et les toucher. Mmh,
d'accord. Donc, ouais. Justement, vous parlez du pop-up store. Alors, la question qu'on a envie de vous poser, c'est finalement, qui sont vos clients aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez appris d'eux en les rencontrant sur ce pop-up store? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez Kimaï?
Mais je pense qu'il y a, il y a plusieurs aspects. En fait, nous, la marque, on s'est vraiment positionné un peu entre deux marchés. Donc, on voit toutes les marques type Place Vendôme qui offrent de la qualité, du design. Mais du coup, comme on disait, ça vient à des prix exorbitants et avec une expérience très traditionnelle. Mmh. De l'autre côté, on a plein de jeunes marques qui sont lancées au fil des 10 dernières années qui sont très fortes en digital. Mais du coup, souvent, il n'y a plus de design, il n'y a plus de qualité. On ne parle pas vraiment de bijouterie fine. Et du coup, on s'est positionné entre ces deux mondes-là où aujourd'hui, on offre de la qualité, du design, le côté éthique et transparence, où pour nous, j'ai écouté un peu de ce que vous avez discuté tout à l'heure, le luxe, aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment avoir cette transparence-là.
La traçabilité.
Exactement. Exactement. Et la traçabilité est vraiment ce qu'on voit comme le luxe aujourd'hui. C'est pas une question de prix, mais c'est vraiment une question de savoir d'où viennent les pièces qu'on achète. Donc il y a vraiment ce côté-là où voilà, aujourd'hui on peut avoir des pièces de qualité avec ces diamants de laboratoire qui deviennent de plus en plus commercialisés, je dirais, du coup à des prix plus abordables parce que voilà, on vend directement aux consommateurs et. Ouais.
Dernière question parce qu'on va devoir terminer. Est-ce que vous réfléchissez à vous installer de façon permanente après ce pop-up?
Complètement. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une balance entre le online et le offline. Mmh. Et du coup, nous, c'est vraiment un test pour voir où on va dans l'année pour peut-être ouvrir une boutique en propre.
Voilà, de belles perspectives pour Kimaï. Merci beaucoup, Jessica Barr. Je rappelle que vous êtes cofondatrice donc de Kimaï. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine.
Focus Retail, le chiffre de la semaine.
Et toujours à mes côtés, Christine Garabédian, directrice commerciale chez Altavia Disco. Alors, autre symbole du luxe accessible, c'est bien sûr l'e-commerce, le digital qui prend de plus en plus de place dans les parcours d'achat.
Complètement. Alors, ce qui est particulièrement effectivement intéressant à observer, c'est dans cette croissance que l'on voit tous, très importante du marché du luxe, c'est la place effectivement du digital, comme vous le disiez, dans les parcours d'achat. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que près de 20% finalement des ventes de produits de luxe d'ici 2025 se feront en ligne, selon les prévisions du cabinet McKinsey. Et finalement, on voit des formats d'outils digitaux se développer et qui, en fait, sont une aubaine pour les marques, puisqu'en fait, elles vont permettre de créer, évidemment, le chiffre d'affaires, mais aussi la relation, le lien entre un consommateur et sa marque, un consommateur qui a fortiori de plus en plus connecté.
Et d'où l'importance de travailler l'expérience client online.
Exactement. Alors, on voit aujourd'hui l'arrivée d'outils, de plus en plus d'outils de commerce conversationnel qui permettent justement aux marques de mettre à leur disposition de leurs vendeurs, par exemple en magasin, des messageries, des outils qui permettent sur Facebook Messenger ou sur WhatsApp, comme par exemple Vuitton qui a proposé son chatbot sur Messenger et qui fonctionne auprès de ses clients, qui permettent de chercher des produits, de partager avec des amis, de demander des conseils. Donc finalement, c'est le luxe devient accessible mais aussi par les nouvelles technologies.
Oui, d'ailleurs Dior qui a fait sa première campagne WhatsApp avec la chanteuse Jisoo. Merci beaucoup Christine Garabédian. Je rappelle que vous êtes directrice commerciale Altavia Disco. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast, en replay sur BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.